Les podcasts du Collège de France, biologie.
Bon ben, on va démarrer tout de suite parce qu'on a une après-midi, c'est la dernière de l'année. Donc ce que je vais vous faire, c'est faire une sorte de petit résumé de ce qui s'est passé dans les semaines qui ont précédé. Et puis je vous introduirai donc notre invité d'honneur, Nathalie. Et après le topo de Nathalie, si ceux qui veulent, on peut avoir une sorte de discussion un petit peu ouverte sur ces questions importantes de formation des gradients. Donc, des gradients, mais au-delà, quoi, des questions de diffusion, de robustesse, qui nous auront été détaillées avec Nathalie. Donc, le titre, justement, est « Précision et robustesse ». Du gradient morphogénétique vicoïde dans l'embryon drosophile. Donc maintenant, vous savez de quoi il s'agit exactement, mais vous aurez la personne qui connaît vraiment. Parce que moi, pour l'instant, je vous ai parlé de choses que je ne connais pas vraiment. Donc vous allez pouvoir faire la différence entre quelqu'un qui sait et quelqu'un qui parle de ce qu'il ne sait pas très bien. Donc le problème que j'ai voulu exposer depuis le début, c'est au fond comment le plan peut être construit, le plan d'un organisme peut être construit à partir de ces molécules qu'on appelle les morphogènes. Et la raison pour laquelle j'ai démarré avec bicoïde, c'est que fondamentalement, bicoïde, bien qu'étant un facteur de transcription, a été très longtemps le seul morphogène patenté, si j'ose dire, qui a été mis sur le marché des morphogènes. Patenté, ça veut dire qu'il correspondait à tout ce qu'on attendait d'un morphogène. Il diffusait, il permettait de faire des bords, d'une certaine façon, par le biais, si vous voulez, comme vous le savez, des effets seuil qu'on peut avoir quand on a un gradient. Et on pouvait penser qu'il y avait une source et un puits. Donc vous connaissez le schéma par cœur. Et bicoïde était parfait pour ça parce que c'était une molécule qui pouvait diffuser librement dans un champ dans lequel il y avait plusieurs noyaux, les noyaux de l'embryon, dans un syncytium, et comme il n'y avait pas de membrane, ça pouvait diffuser. Et en plus, le coût des effets seuil avec l'induction des gènes OTD et des gènes Hunchback en particulier faisait qu'il correspondait au modèle qui était le modèle le plus important connu pour ce qui est de l'établissement des gradients, c'est-à-dire le schéma qui avait été proposé en 1969 par Louis Volpert dans son fameux modèle du drapeau français. Et au fur et à mesure, et moi je m'intéressais à ça parce que dans ce qu'on fait dans notre laboratoire à l'École normale, il nous était apparu que les homéoprotéines étaient d'excellents candidats morphogènes, y compris dans les organismes multicellulaires, dans la mesure où ces homéoprotéines sont capables de traverser les membranes comme s'il n'y en avait pas. C'est-à-dire qu'on se retrouvait, si vous voulez, la thèse de fond, c'est que le cerveau est un syncytium pour les homéoprotéines, et donc on se retrouvait dans la situation bicoïde. Donc j'ai commencé à regarder toute cette littérature d'un œil assez inexpérimenté, hein, parce que, comme vous le savez, je n'ai jamais travaillé sur la mouche. Je vais m'y mettre maintenant grâce à Nathalie, parce que l'avantage de ce cours, c'est qu'il m'a induit à penser qu'il fallait peut-être que je travaille sur la mouche maintenant. Il n'y a pas de honte. C'est un organisme tout à fait raisonnable. Donc, parce que j'ai fini par, en regardant les papiers, le premier, c'était la robustesse. Et donc, je suis reparti, comme vous le savez, du papier de 2001, celui de Vichaus, Leibler. Et je pensais très honnêtement qu'ils avaient effectivement démontré qu'il y avait un problème de robustesse. Il y a un problème de robustesse dans la mesure, je ne sais pas si vous en souvenez, mais avec une variabilité très importante du gradient de bicoïde, on arrivait à avoir un bord très fin avec de l'expression du gène Hunchback. Et la première surprise, ça a été ensuite, quand j'ai continué à lire cette littérature, de tomber sur le papier de l'équipe de Nathalie Dostatny, qui montrait que tout cela était probablement, je peux le dire, elle les rectifiera, mais un artefact assez grossier, il faut bien le dire, puisque c'est un artefact lié à des artefacts de fixation, au fond. Et que ce qu'on pouvait simplement voir, c'était que à cause de la pente différente du gradient de Hunchback et de celle de Bicoïde, eh bien, la variabilité qu'on pouvait voir correspondait simplement à la forme de ces deux pentes, qui fait que quand la pente est très forte, une différence de 2 dans l'efficacité de marquage par un anticorps en fait, se voyait beaucoup moins dans le sens de l'axe X que quand on a une pente très faible, cela va de soi. Donc ça, c'était la première surprise que ce papier, quand même, qui a été longtemps un papier de référence, probablement était relevé de l'artefact, quoi. Bon, c'est pas pour ça que c'est pas bon. Hein. Il ne faut pas en tirer des conclusions que je pense que ce papier est mauvais. Je pense que tous les papiers, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, peuvent avoir un artefact. C'est comme ça que ça progresse. La rectification de l'erreur, c'est quand même le chemin essentiel du progrès des sciences. Progrès, entre guillemets, parce que bon, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire que le terme de progrès. La deuxième chose, c'est que Bicoïde diffuse. Donc on était content parce qu'on avait un morphogène qui diffuse. Et puis, probablement d'ailleurs grâce à ce papier de Dostatny, que j'en profite donc pour l'introduire, comme vous pouvez voir, les gens ont commencé à prendre des molécules fluorescentes pour éviter l'artefact de fixation. C'est-à-dire qu'on a fait des bicoïdes GFP, on pouvait suivre la formation des gradients et la diffusion des molécules sans avoir à fixer le tissu. Et quand cette chose a été faite, qu'on a commencé à mesurer les constantes de diffusion, on s'est rendu compte que ça ne diffusait pas, ou très peu, 100 fois moins qu'il lui fallut pour établir un gradient le long de l'axe antéro-postérieur en une période d'environ 2 heures, un truc comme ça, entre la 9e et la 14e division cellulaire dans cet embryon. Donc le deuxième élément, qui était l'élément de diffusion, lui aussi se révélait être faux, d'une certaine façon. Et donc il faut encore aujourd'hui trouver un autre mécanisme qui permette de comprendre comment ce gradient de bicoïde s'installe dans un temps aussi réduit. Et évidemment, là, il y a plusieurs possibilités ouvertes, il faut le dire. C'est-à-dire qu'il y ait des moteurs, par exemple, qui transportent la protéine, qu'il y ait des événements intermédiaires de transcription ou de traduction qui permettent une amplification séquentielle du signal et donc une avancée plus rapide de ma protéine le long de cet axe antéro-postérieur. Et là, je pense que le champ est ouvert, parce que je pense qu'on ne sait pas encore, tu me reprendras si je me trompe, mais on ne sait pas encore comment ce gradient s'établit. On peut aussi imaginer quelque chose de très bête, c'est qu'en fait, il y a du messager ailleurs qu'à l'avant. Mais que, je ne sais pas si des gens, par exemple, ont pris du cytoplasme à différents endroits de l'axe antéro-postérieur et fait des RT-PCR pour voir si par hasard il n'y a pas du messager ailleurs qu'au point d'ancrage. Peut-être qu'en fait le messager on ne le voit pas mais qu'il a lui-même un peu diffusé et qu'il y a de la traduction de bicoïde ailleurs qu'au pôle antérieur de la mouche. Donc ça, ce serait une manière assez simple de prendre le cytoplasme dans la région caudale de l'embryon et puis de regarder s'il y a du messager bicoïde là. Parce que au fond, on s'est tout de suite dit, il s'est ancré, 3' UTR, je suis ancré à l'avant, et j'en ai nulle part ailleurs. Peut-être qu'en fait, il y en a aussi ailleurs, peut-être que du messager reste ailleurs et qu'il est traduit au cours du développement, peut-être même traduit sous l'influence de bicoïde lui-même, allons savoir. Donc tout ça est aujourd'hui complètement ouvert, à mon avis, d'après la littérature, et c'est pour ça que j'ai demandé à Nathalie de venir, parce que évidemment, il faut mieux avoir un spécialiste du système pour savoir si les hypothèses qu'on fait sont folles. Ce qui est possible, hein. Je n'exclus pas du tout cette possibilité. Cela dit, ça m'a donné envie d'établir une collaboration avec quelqu'un qui travaille sur la drosophile pour aller voir un tout petit peu plus loin, parce que ça peut nous aider, nous, dans notre modèle de construction du système nerveux, ce coup-ci, pour voir comment nos facteurs de transcription peuvent avoir leur activité de type morphogénétique dans la construction d'un système nerveux, par exemple, ou la segmentation d'un neuroépithélium. Car le neuroépithélium, c'est un peu comme une mouche, si vous voulez. C'est-à-dire que vous avez un système qui est donné, qui est la plaque, une sorte de plaque neurale qui correspond à l'avant du cerveau, mais à un moment, il va falloir faire des bords pour faire les différentes régions du système nerveux. Et est-ce que ces facteurs de transcription permettent de faire des bords? Est-ce qu'il y a des effets seuil? Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de ce qu'on peut voir dans l'embryon de drosophile? Donc, Tout ça, évidemment, de ma part, extraordinairement intéressé. Alors, pour faire des bords, il y a aussi d'autres solutions. J'en ai proposé une, c'est-à-dire qu'il y a deux facteurs de transcription qui s'auto-activent et s'entraînent dans un modèle qui, à ce moment, n'est plus le modèle du drapeau français et devient le modèle de morphogène qui a été proposé par Turing en 1952 son article assez célèbre « Les bases chimiques de la morphogénèse », où lui propose que la formation de bords, en l'occurrence des taches sur le léopard ou des espèces de dérives d'un système de ce genre, où on a deux molécules qui sont exprimées statistiquement égales dans un champ. Et puis, comme les diffusions sont différentes, il y a un moment où il y en a un petit peu plus de l'une dans un endroit et un petit peu moins de l'autre. Et comme A active A et réprime B, et B active B et réprime A, dès que le différentiel de concentration est important, à ce moment-là, évidemment, il y en a un qui s'éteint et on peut faire un bord. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui peut se produire dans le système nerveux, dans la mesure où les bords se forment dans le système nerveux à des niveaux où, d'un côté, on a une homéoprotéine et de l'autre, on en a une autre, et que ces deux homoprotéines sont à la fois des octoactivatrices et des inhibitrices réciproques. Je ne sais pas si quelque chose comme ça peut aussi se produire chez la droso. Ce n'est pas impossible. Il faudrait voir quel est l'autre partenaire. Mais ça aussi, ce n'est pas quelque chose qui est impossible si on pense à la formation, à la robustesse du bord. C'est-à-dire que ça donne des bords extrêmement robustes. Donc, de fil en aiguille, la question du transport s'est imposée à moi comme une question vraiment fondamentale. Et pour les transports, bien écoutez, il n'y a pas 36 solutions. Il y a les moteurs moléculaires avec le cytosquelette. Donc, je vous ai montré un tout petit peu comment les morphogènes pouvaient diffuser. Au fond, dans l'espace extracellulaire, le cytosquelette, ce n'est pas terrible. On peut imaginer dans la mouche qu'un cytosquelette peut intervenir, mais dans l'espace extracellulaire d'un organisme pluricellulaire, par exemple dans l'aile drosophile, on en a longtemps parlé, par exemple quand DPP est sécrété du côté basolatéral, il n'est pas dans un endroit où il y a des cytosquelettes. Et donc, à ce moment-là, la diffusion peut être soit une diffusion de type aléatoire, stochastique, une diffusion brownienne, à partir d'un endroit de haute concentration, soit, si on est associé à des particules, que ce soit des argosomes, que ce soit des exosomes, que ce soit des lipoprotéines qui portent les morphogènes, eh bien, il faut imaginer qu'il y a quelque chose qui les transporte, et c'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai fait 2 heures sur les cils, qui sont évidemment des systèmes qui peuvent permettre de créer un flux, vraiment où ils battent de façon régulière, ils donnent une polarité planaire au système, et à ce moment-là, on peut imaginer qu'on a un véritable transport qui est poussé par le cil, donc une énergie qui est produite. Donc, un petit peu, c'est un peu ça la logique du cours tel que je vous l'ai fait cette année. Et bien entendu, tout ça n'est pas réglé. Vous comprenez bien que tout ça n'est pas réglé. J'aime bien l'idée du cil, vous avez vu ça la semaine dernière. Je crois qu'elle est extrêmement forte quand on est dans un système extracellulaire. Des cils intracellulaires, je ne crois pas que ça existe. Je pense qu'on a vu des cils à l'intérieur de l'œuf de mouche. Ça me paraît quand même un tout petit peu exagéré comme hypothèse, d'avoir des cils qui poussent vers l'intérieur. Imaginez ça, c'est un peu désagréable comme idée. Voilà, donc on en est là. Ce que je voulais vous dire, c'est que après l'exposé de Nathalie, nous pourrons avoir cette discussion de façon très ouverte pour ceux qui veulent l'avoir. Je voudrais aussi vous annoncer 2 choses, c'est que le 10 décembre, on aura toute une journée sur ces questions, avec plusieurs conférenciers très intéressants qui vont venir, à la fois, je vous l'ai dit, des matheux, des physiciens et des biologistes, qui vont exposer leur point de vue sur la façon dont s'organise cette polarité, au fond, au sein d'un organisme. Et puis, l'année prochaine, donc à peu près à la même période, je vous ferai 9 heures de cours sur la suite de cette affaire. La suite de cette affaire, c'est comment faire des bords. C'est-à-dire, au fond, ça va être le développement et l'évolution du système nerveux du point de vue de comment je fais des bords et comment les bords peuvent changer au cours de l'évolution. Parce que vous comprenez bien que c'est une question fondamentale. Si vous comparez le cerveau d'un singe au cerveau d'un sapiens, c'est sûr qu'on a gagné énormément en surface de cortex. Le cortex, c'est un plan, n'oubliez jamais. Chez nous, c'est 2 mètres carrés, 4 mm d'épaisseur. Mais chez un singe, ça peut être 500 cm². Donc la taille a augmenté, donc on va essayer de comprendre cette question de l'augmentation de la taille. Mais ce n'est pas uniquement la taille qui a augmenté, c'est que les bords entre les différentes régions du cortex ont aussi varié. Donc comprendre comment on place un bord, c'est comprendre comment l'évolution a pu sélectionner des organismes qui vont avoir, par exemple, dans le plan général, non seulement augmenté la taille de l'appartement, mais fait une part plus grande à la cuisine ou plus petite à la salle de bain. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement l'appartement qui a augmenté de surface, c'est qu'on a aussi déplacé les cloisons à l'intérieur de cette surface. Et ces phénomènes qui permettent de placer les bords sont évidemment des phénomènes qui sont très importants pour savoir comment le cortex a pu évoluer depuis l'invention du cerveau plan. Hein. Parce que, comme vous savez, le cerveau plan est une invention récente. Il y aura environ 200 millions d'années, parce que les arthropodes, de leur côté, eux, ont pris une autre direction, qui est la direction du cerveau boule, le ganglion, qui est une façon complètement différente de gérer cette question. Et qui, en même temps, une sorte de handicap par rapport à l'évolution, puisque une boule a un rapport surface-volume qui n'est pas très favorable à l'agrandissement du cerveau. Hein. Vous avez un cerveau plan, si vous l'agrandissez, s'il est trop grand, vous le pliez, vous le remettez là-dedans, donc ça va. Quand vous avez une boule qui grossit, il faut se la transporter quand même. Et puis, les problèmes d'irrigation à l'intérieur, toutes sortes de questions qui sont des questions fondamentales. Il y a de la nécrose au centre, si on a une trop grosse boule. On en restera probablement à l'évolution du cortex chez les vertébrés. Et je prendrai peut-être l'exemple de la vision, je ne sais pas encore très bien. Je peux d'ailleurs, c'est un plan que j'ai aujourd'hui pour l'année prochaine. Je crois que l'année d'après sera réservée aux questions de plasticité et de régénération. Donc vous voyez qu'on a déjà pratiquement un programme pour 2 ans pour ceux qui veulent suivre régulièrement cet enseignement, qui, comme je vous l'avais promis le 4 octobre, est un enseignement de recherche. Hein. C'est-à-dire que ce que je veux, c'est qu'on travaille à tâtons, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vous dire c'est comme ça. Je pense qu'il faut aller prendre les papiers et aller les comparer et essayer de comprendre ce qu'on ne sait pas encore et quelles sont les questions qui se posent plutôt que de faire des grandes fresques sur des choses qu'on croit connaître et qu'en fait finalement restent pour une grande part très 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 aléatoires. Donc cela étant dit, j'aurais voulu aujourd'hui vous parler des sucres, mais je dis toujours que je vais parler des sucres, mais je ne l'ai pas fait, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas les traiter par-dessus la manche. C'est une question trop importante, la question de ces sucres complexes. Je crois que c'est une question fondamentale et je voudrais y consacrer un cours. Je consacrerai peut-être une partie l'année prochaine dans cette question d'évolution. Il y aura des questions sur les sucres complexes, mais très certainement dans le troisième cours qui sera sur, comme je vous l'ai dit, sur la régénération et sur la plasticité. Alors là, nous serons confrontés à cette question du rôle des sucres parce que en filigrane c'est toujours de robustesse qu'il s'agit, c'est pas tout de faire des bords, il faut que les bords soient placés au bon endroit et que ce soit extrêmement robuste, parce que sinon vous avez des organismes qui sont trop variables. Si je vous dis que le déplacement des bords est quelque chose de très important au cours de l'évolution, c'est aussi quelque chose de très important au cours du développement. Par exemple, si je mets un bord au niveau de l'isthme, qui est une région dans le système nerveux, et que je déplace légèrement ce bord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser plus de place à une région du cortex qu'à une autre. Ça se passe comme ça au cours du développement, c'est-à-dire que vous placez des bords dans votre cortex. Si vous avez le même génome que votre frère jumeau, vous allez penser que vous allez placer le bord exactement au même endroit. Ce n'est pas forcément vrai, parce que cette formation du bord est un processus dynamique. Si ça correspond par exemple à l'avancée de 2 morphogènes qui vont dans les sens... Si il y a une modification de vitesse d'un des 2 morphogènes, vous allez légèrement déplacer votre bord. Si vous le déplacez dans il peut y avoir une plasticité physiologique qui fait que fondamentalement, ce n'est pas très grave de rater, de déplacer de 2 ou 3 cellules par rapport au bord idéal, entre guillemets. Mais si vous avez quelque chose qui dérape vraiment et que vous allez déplacer votre bord d'une dizaine ou d'une vingtaine de cellules, alors vous pouvez rentrer dans un processus qui est un processus de type pathologique, c'est-à-dire faire un organisme qui n'est pas construit comme il faut. Et par exemple, qu'il y aura plus de neurones dopaminergiques ou pas assez, ou des choses comme ça, avec des implications au niveau des pathologies. C'est pour ça que le troisième cours sera sur des questions de robustesse, de plasticité. parce que là, on rentre dans le domaine qui est probablement d'une tentative, hein, toujours, d'explication de l'étiologie de maladies neurologiques ou psychiatriques, s'il s'agit évidemment du système nerveux. Donc je pense que vous avez compris un petit peu la logique qui a présidé au cours de cette année, et un petit peu aussi de celle qui va être la trame des cours pour encore au moins 2 ans. Puis après, je ne sais pas. On ne peut pas prédire ce qui va nous intéresser à plus de 2 ans. Puis peut-être qu'entre-temps, j'aurai changé d'avis. Tant pis. Je me donne ce droit, évidemment, de changer l'intitulé du cours à n'importe quel moment. Ça, c'est donc l'essentiel de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais donc introduire Nathalie. Donc Nathalie Dostatny, qui est ici. Donc, vous avez entendu parler d'elle déjà, puisque... Alors aussi une chose plus pratique, il y a des gens qui m'ont demandé les photos du cours, il y en a 250, il y a eu 250 diapositives environ. Hein. Je les ai envoyées en format compressé à ceux qui me les ont demandé. Je ne peux pas les envoyer autrement qu'en format compressé, parce que vous voyez, je peux les envoyer une par une, chacune des diapositives, ce n'est pas possible. Donc il y en a qui sont revenus parce que vous n'arrivez pas à décompresser, je pense qu'il faut trouver un moyen de les décompresser vous-même. Il y a quelqu'un ici, une dame, qui m'a demandé le cours hier. Je n'ai pas pu le lui envoyer. Je ne sais pas si elle est là, mais si elle est là, elle se reconnaîtra. Et elle doit savoir qu'elle le recevra demain. Aussi, évidemment, donc, que les 240 ou 250 diapositives du cours, aussi en format compressé. Alors, donc maintenant, Nathalie Dostatny travaille et a une équipe à l'Institut Curie. Et je ne sais pas quelle est son enfance, je n'ai pas été remonté si loin. Oh, pardon. ça passe très vite. Hein. Donc, mais par contre, je sais qu'elle a fait un postdoc chez un ami à moi qui s'appelle Claude Desplan. Il était à Rockefeller quand tu étais là-bas, ouais. Donc à l'Institut Rockefeller, où elle a travaillé. C'est là qu'elle s'est intéressée, pour l'essentiel, à la régulation de l'expression d'OTD. Je me trompe, non ? Presque, oui. D'OTD chez la drosophile. Ensuite, elle a bénéficié d'une équipe indépendante à Marseille, sous la forme de ce qu'on appelle les ATIP à l'époque du CNRS. Elle est donc partie à Marseille pendant quelques années, 3-4 ans, un truc comme ça. Et puis, elle a été recrutée par l'Institut Curie, où elle a son équipe, l'Institut Curie, où elle a fait ce travail tout à fait... je dirais iconoclaste, hein, qu'elle a quand même réussi à publier, parce que c'est pas rien de montrer qu'un prix Nobel a fait une erreur méthodologique de ce type. Vous voyez que aussi pendant ce cours, on a montré que deux travaux de prix Nobel, le gradient de bicoïde diffusant, le travail de Lucien Bollaert, 1988, probablement pas entièrement exact. Et que le travail de l'autre prix Nobel, Bichaos, ils n'ont pas entièrement exact. Ça ne veut pas dire que ce ne soient pas des grands savants, ça veut dire que ben, c'est comme ça que ça se passe, quoi. C'est la vérité de la science. Si la science a une vérité. Donc, Nathalie, merci beaucoup d'être venue. Tu prends le temps qu'il te faut, hein, et tu dois savoir qu'après, il y aura une discussion qui sera non seulement sur ton travail, mais peut-être plus généralement sur l'ensemble du cours qui a été fait dans les 9 heures qui ont précédé.
Voilà, donc je voulais remercier Alain de m'avoir proposé donc de vous parler un peu de notre travail sur bicoïde dans l'embryon de drosophile, et en particulier tout ce qui concerne un petit peu sa précision, la précision de ce gradient et sa robustesse. Mon introduction en fait reprend un petit peu ce dont Alain vient de parler en fait, et en particulier la notion de morphogène, donc en biologie du développement. C'est une notion qui est apparue très tôt en fait, puisqu'elle a été proposée par Morgan en 1910 et qu'elle a été largement revisitée par Lévis-Volpert, comme le disait Alain, dans les années 70, quand il a proposé son modèle du French flag pour expliquer le fonctionnement d'un tel gradient. Alors, avant de vous parler de bicoïde, je voudrais juste revenir en fait sur une expérience de greffe classique qui avait été réalisée donc en 1975 par Cheryl Tickle donc et Volpert, et qui concernait la formation du bourgeon de membre. Donc ici, on a le bourgeon de membre en fait, chez le poulet, donc au cours du développement de l'embryon de poulet. Et il y a une polarité qui a été définie pour le membre, la polarité antéro-postérieure, qui se définit à la fin du développement en fait, par l'orientation des doigts de l'aile ici, avec ces doigts qu'on reconnaît de manière très caractéristique avec le patron 2, 3 ou 4. Et alors, l'expérience en fait, qui a été réalisée par Cheryl Tickle a consisté à faire une greffe en fait, d'une petite zone qui se trouve dans la région la plus postérieure du bourgeon de membre, la greffer à l'antérieur, et d'observer en fait, après le développement d'un membre qui se développait en image complètement miroir par rapport à ce qui se passait dans la situation normale. Et ce qui était surprenant, en fait, ce n'était pas qu'on obtienne le doigt 4, en fait, qui se trouvait effectivement émergé de cellules qui, au début du développement, se trouvaient dans cette région-là. Mais ce qui était surprenant, c'est qu'on ait une duplication en fait, des doigts numéro 2. Et ça, ça a permis à Volpert de proposer en fait, son modèle du gradient morphogénétique qui proposait en fait, que des substances devaient pouvoir diffuser de cette région pour définir en fait, le destin des cellules qui allaient donner le doigt 2. Et donc, c'est à partir de ce type d'expérience, en fait, qu'il a proposé cette définition du morphogène qui serait une substance donc distribuée sous forme d'un gradient de concentration et capable d'induire des destins cellulaires différents à différentes concentrations. Alors, il faut savoir en fait que cette définition elle est très simplifiée, qu'aujourd'hui, on a des variations sur ce thème, que la notion de gradient de concentration, en fait, elle a été largement revue et que maintenant, on parle plutôt de gradient d'activité. Parce qu'on s'aperçoit que effectivement, la protéine qui est capable d'induire des destins cellulaires différents à différentes concentrations n'est pas toujours distribuée sous forme de gradient, mais par contre, il y a une deuxième protéine qui se trouve sous forme de gradient qui va changer l'activité en fait, de cette protéine qui est réellement le morphogène. Donc ça, il faut bien savoir que c'est une définition très simplifiée. Et donc là, je reviens au système de la source et le modèle du French flag avec une première cellule donc, dans laquelle le morphogène serait produit. Cette substance serait donc capable de diffuser pour se trouver à différentes concentrations dans les cellules qui se trouvent donc dans un champ. Et en fonction de la concentration donc, de cette substance, seraient induites des destins cellulaires différents aux différentes cellules. Alors, destins cellulaires qui seraient induits en fait, par l'expression de gènes particuliers qui sont nécessaires donc, à l'expression de ce destin cellulaire. Alors, évidemment, ça pose des questions actuelles. Et on revient à cette question de comment cette substance peut-elle diffuser dans un champ de cellules, hein, puisqu'évidemment, il faut, comme le disait Alain, que ces substances arrivent à diffuser. Il y a un effet à longue distance. Alors, il y a deux hypothèses, ou bien la substance diffuse effectivement, ou alors elle va induire, changer le destin de la cellule juste adjacente et avec un mécanisme de relais. Donc là, il y a beaucoup de discussions dans certaines situations où on n'est pas encore certain qu'effectivement il y a une diffusion. Et enfin, la deuxième question qui est vraiment importante, c'est comment ces destins cellulaires sont établis en fonction de la concentration donc, de cette substance. Et ça, évidemment, dans la plupart des cas, ces morphogènes sont des molécules sécrétées. Et évidemment, ça va impliquer toute une machinerie cellulaire avec des récepteurs donc, à la surface des cellules pour être capable de sentir entre guillemets, la concentration donc, de cette substance. Et ensuite, l'activation à l'intérieur de la cellule de toute une cascade de transduction du signal qui va permettre d'exprimer donc, ces gènes importants pour le destin cellulaire dans ces différentes cellules. Alors, pourquoi le modèle de bicoïde ? Alors, bicoïde, en fait, c'est effectivement, comme le disait Alain, le premier gradient morphogénétique qui a été effectivement décrit. Ça c'était le travail en fait, de Yanni Nussle-Wollard et Wolfgang Driver en 1988. Et donc, on pourrait se dire, 20 ans plus tard, bon, finalement, on sait déjà beaucoup de choses sur bicoïde. Est-ce qu'on peut encore découvrir des choses avec ce système ? Alors, je vais essayer de vous montrer qu'effectivement, il y a encore des tas de choses à découvrir avec bicoïde. Et par ailleurs, en fait, effectivement, comme le disait Alain, l'intérêt de ce système, c'est que c'est aussi le plus simple. Pourquoi ? Parce que son mode de fonctionnement donc, s'effectue dans l'embryon syncytial. Et par ailleurs, il s'agit d'un facteur de transcription. Et donc, du coup, on évite, entre guillemets, toute la cascade de transduction du signal qui complique beaucoup l'analyse des morphogènes, donc plus compliquée. Donc ça reste un système modèle très important avec des questions fondamentales qui, à mon avis, dont les réponses pourront peut-être aider à mieux comprendre ce qui se passe aussi dans le cas des morphogènes un petit peu plus compliqués, dans les systèmes plus compliqués. Alors, je ne sais pas si vous avez trop entendu parler du développement précoce de l'embryon de drosophile. Donc l'embryon de drosophile est issu de la fécondation d'un ovocyte qui se développe donc chez la femelle dans une structure qu'on appelle le follicule. Cette structure de follicule est composée d'une couche de cellules folliculaires d'origine somatique et de 16 cellules germinales. Alors, parmi ces 16 cellules germinales, il y en a une qui va devenir l'ovocyte et les 15 autres qui sont les cellules nourricières, qui en fait sont des cellules dans lesquelles vont être exprimés un certain nombre de gènes à effet maternel et les transcrits ou les protéines de ces gènes seront transportés dans l'ovocyte pour son développement. Alors, après fécondation, l'œuf est pondu et donc on a affaire à une grosse cellule avec un noyau unique. Alors, comme on l'a dit plusieurs fois, donc le développement de l'embryon drosophile au départ s'effectue dans un environnement syncytial, c'est-à-dire que ce noyau va se diviser un certain nombre de fois, donc à peu près 13 ou 14 fois, enfin au moins 14 fois. Les noyaux vont migrer à la périphérie de l'embryon, donc ça c'est un processus qui est extrêmement rapide, hein, puisqu'il s'effectue en 90 minutes et on a au moins une dizaine de divisions nucléaires en 90 minutes, ce qui veut dire une division toutes les 10 minutes. Les noyaux donc migrent à la périphérie et donc au bout de 90 minutes, ils forment une structure qu'on appelle le blastoderme syncytial. Alors, à partir de ce moment-là, va démarrer un processus important, qui est le processus de cellularisation, avec une invagination de la membrane cellulaire de part et d'autre de chacun des noyaux qui se trouvent à la périphérie comme ça, pour former 90 minutes plus tard une structure qu'on appelle le blastoderme cellulaire. Et alors, à partir de ce moment-là, toutes les cellules, en fait, pratiquement de l'embryon sont présentes. Il n'y a pas encore eu aucun mouvement de cellules qui sont caractéristiques de la gastrulation. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que commence la gastrulation. Alors, dans mon exposé, en fait, les embryons seront toujours représentés selon ce schéma-là, c'est-à-dire avec l'antérieur à gauche et le postérieur à droite, pour simplifier le propos. Alors, si on s'intéresse maintenant à bicoïde, donc le gène bicoïde, en fait, c'est un gène qui est purement maternel, donc il est exprimé dans les cellules nourricières et l'ARN de bicoïde est déposé au pôle antérieur de l'embryon. Donc ici, c'est une hybridation in situ qui permet de détecter l'ARN de bicoïde. Au moment de la ponte, la traduction de la protéine va démarrer et là, avec un marquage avec des anticorps, on peut observer en fait la formation de ce gradient de bicoïde. Et donc effectivement, l'idée qu'on a de la formation du gradient, c'est que la protéine produite au pôle antérieur va diffuser le long de l'axe antéro-postérieur. Comme je vous le disais, donc cette protéine est un facteur de transcription et il va avoir pour effet d'activer l'expression de nombreux gènes cibles dans des domaines antérieurs distincts. Alors ici, vous avez l'expression de deux gènes cibles de bicoïde, orthodenticule et hunchback. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que ces deux gènes sont bien exprimés dans des domaines antérieurs, mais que la position de la bordure postérieure de ces domaines d'expression varie d'un gène à l'autre. Alors, cette expression postérieure que vous voyez ici pour hunchback n'a rien à voir, en fait, avec le système de bicoïde. Hein, donc, j'en parlerai plus. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comprendre un petit peu, il y a trois questions en fait qu'on se pose sur ce système, c'est comment on arrive à passer de cette information graduelle qui est liée à l'information de variation de la concentration de bicoïdes à cette information de position précise qui, pour chaque gène cible, va séparer l'embryon en deux domaines, un domaine antérieur où le gène sera activé et un domaine postérieur où il sera éteint. Et en fait, il y a trois questions qu'on se pose aujourd'hui, c'est d'une part, comment cette bordure nette se forme à partir de cette information graduelle. Quel est le degré en fait, de précision la position en fait, de cette bordure? Si on regarde dans de nombreux embryons l'expression des gènes cibles de bicoïde, on s'aperçoit en fait, que les bordures sont positionnées de manière extrêmement reproductible d'un embryon à l'autre. Et enfin, il y a la question de la position. Effectivement, pourquoi le gène OTD à une bordure postérieure qui est exprimée jusqu'à à peu près 70% enfin, les 30 premiers pourcents de l'axe antéro-postérieur, et pourquoi Hunchback, lui, va jusqu'à la position 50. Alors, j'aurais pas trop le temps de vous parler, en fait, de cet aspect-là, mais c'est aussi une question qui nous intéresse. Alors, en ce qui concerne la netteté, donc, je vais partager mon exposé entre deux questions, netteté et précision. Netteté, parce que ça correspond vraiment à ce qui nous a intéressé récemment, et précision, c'est plus à cause, en fait, de cet aspect, on va dire, plus médiatique de ce qu'on sait sur Bicoïd et des publications récentes qui ont eu lieu à ce sujet-là. Alors, en ce qui concerne la netteté de la réponse à Bicoïd, je voudrais revenir un tout petit peu sur l'hybridation in situ. Donc, techniquement, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une hybridation in situ? Donc, on imagine qu'on a donc un ARN ici, l'ARN messager d'Hunchback, et on utilise une sonde antisens, c'est-à-dire un ARN, une sonde complémentaire, capable de s'hybrider de manière complète, en fait, à l'ARN d'Hunchback. Et cette sonde, elle a été fabriquée in vitro et elle porte des groupements chimiques digoxygénine qui peuvent être reconnus par un anticorps couplé à une enzyme, l'alkaline phosphatase ici, et l'activité en fait de cette enzyme peut être révélée par la transformation, changement de couleur en fait d'un substrat qui permet d'obtenir un précipité bleu à l'endroit où se trouvait en fait la sonde antisens et donc l'ARN messager. Donc c'est comme ça qu'on détecte les ARN messagers en biologie du développement surtout. Et on a commencé en fait dans le laboratoire avec Olivier Croc à essayer de se dire on va essayer d'étudier la dynamique en fait d'apparition d'Hunchback dans les embryons. Et là, en s'intéressant à la bordure, on s'est aperçu que quand on prenait un embryon assez précoce, donc ça c'est un embryon qui est avant le processus, bien avant le processus de cellularisation, la bordure avait un aspect un petit peu diffus, alors que pendant le processus de cellularisation, cette bordure devenait nette. Donc on s'est dit ça vaudrait le coup d'arriver à mesurer un petit peu cette formation de bordure nette, et à partir de là, Olivier a commencé à essayer de scanner en fait les embryons le long de l'axe AP, de définir ainsi deux points le long de l'axe antéro-postérieur, un premier point qui correspondait au point le plus postérieur pour lequel on avait le niveau le plus élevé d'Hunchback, et ici le point le plus antérieur pour lequel on avait le niveau le moins élevé d'Hunchback. Et en fait, on a défini finalement la netteté de la bordure comme la différence des positions en fait, de ces deux points. Alors, dans le cas d'Hunchback, ce qu'on constate ici, dans des embryons qui étaient mid, en fait, on a pu constater que cette netteté correspondait à peu près à 5-6% de la longueur de l'embryon. Alors, on a recommencé en fait cette expérience avec Otidi, et là, à nouveau, dans un embryon précoce, on a une bordure un petit peu floue qui devient très nette, avec à peu près le même niveau de précision et de netteté en fait pour la formation de la bordure. Alors, on avait dans le laboratoire en fait un gène rapporteur, un transgène, qui avait été construit d'ailleurs quand j'étais chez Claude Desplans à New York, et qui était un transgène simple dans lequel on avait placé le gène LACZ sous contrôle d'un promoteur minimal qui ne contient que des sites de fixation pour Bicoïd. Bicoïd est un facteur de transcription à homéodomaine, et donc on s'était intéressé à l'expression de ce transgène en fait dans l'embryon. Et ce qu'on observait en regardant l'expression de l'AXZ à nouveau par hybridation in situ, c'est qu'à nouveau dans les embryons précoces, on a une bordure qui n'est pas très nette, et qu'au moment du processus de cellularisation, cette bordure devient nette, et elle devient finalement à peu près aussi nette que la bordure des autres gènes cibles de Bicoïd, des gènes endogènes. Donc on a conclu de cette observation que les sites de fixation pour Bicoïd dans un promoteur finalement sont suffisants pour induire son expression dans un domaine à bordure nette. Alors, on s'est ensuite posé la question de savoir s'il pouvait exister dans la protéine Bicoïd des domaines importants pour la netteté de sa bordure. Alors, moi, je suis un peu d'origine de biologie moléculaire, et le bon biologiste moléculaire, quand il a une protéine qu'il cherche à étudier, va chercher à identifier des domaines importants pour le phénomène qui l'intéresse. Et donc, effectivement, la protéine Bicoïd, en fait, vous est représentée ici avec un certain nombre de domaines qu'on a caractérisés. Donc, un domaine important, c'est le domaine de fixation à l'ADN. Il y a trois domaines activateurs. Alors, ce qu'on appelle un domaine activateur, c'est un domaine qui, de manière autonome, est capable, quand il est fusionné à un domaine de fixation à l'ADN d'activer la transcription. Alors, je vous montrerai en fait des expériences qui permettent d'identifier, de démontrer que ces trois domaines-là sont effectivement domaines activateurs. Et on a identifié aussi un domaine ici, répresseur. Alors, les lettres que vous voyez ici, en fait, HD, bon, c'est homéodomaine. ST, c'est riche en sérine tréonine. Les biologistes moléculaires ne sont pas très imaginatifs. Donc, quand on a trouvé un domaine, après, on essaye de le caractériser. Q, c'est riche en glutamine. A, c'est riche en alanine. Et C, c'était le domaine C-terminal acide. Alors, on a eu la chance de disposer en fait de lignées transgéniques qui avaient été construites chez Claude Desplans par Valérie Schaeffer, qui exprimaient des versions de cette protéine bicoïde délétée des différents domaines. On a pu placer en fait ces formes délétées dans un contexte d'un allèle nul pour bicoïde, c'est-à-dire en absence de la protéine sauvage. Et on s'est posé la question de savoir si on pouvait identifier certains mutants dans lesquels la bordure d'Hunchback pouvait avoir un problème. Alors, autant vous dire que ça a été quelque chose d'assez fastidieux, parce que finalement, comme il y a beaucoup de domaines un petit peu redondants, hein, trois domaines activateurs, ben, on a eu du mal à obtenir quelque chose, et la plupart en fait, des mutants qu'on a étudiés, ils avaient une bordure d'Hunchback normale. En fait, il y en a quand même eu deux qui avaient un intérêt, donc c'était le bicoïde delta C et le bicoïde delta QC, donc qui délète soit le domaine C-terminal, soit le domaine Q et le domaine C-terminal, qui sont deux domaines activateurs. Et on s'est aperçu en fait que dans ces embryons-là, au même stade de développement, quand on analysait la bordure postérieure d'Hunchback, en fait, elle était beaucoup plus floue. Et si on mesurait en fait effectivement la netteté en fait de cette bordure, on pouvait aller dans le cas du delta QC jusqu'à 20% en fait de l'axe antéro-postérieur. Donc ce qu'on pouvait déduire en fait de ces expériences, c'est qu'effectivement, il y avait bien dans le bicoïde des domaines qui étaient importants pour la formation de cette bordure nette d'Hunchback. Alors, du coup, on s'est posé la question, comme ces deux domaines étaient des domaines activateurs, on s'est posé la question de savoir si la formation de cette bordure, elle était spécifique à bicoïde ou si, en fait, on pouvait l'obtenir en produisant dans l'embryon de drosophile, un gradient de facteurs de transcription artificiel. Alors, pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a construit les séquences donc, de facteurs de transcription qui sont capables de se fixer, enfin, qui ont le domaine de fixation à l'ADN de Gal4. Donc, Gal4, c'est une protéine de levure qui se fixe à l'ADN, dont le domaine de fixation à l'ADN a été extrêmement bien caractérisé. Et on a fusionné donc, à ce domaine de fixation à l'ADN soit des domaines activateurs comme celui de BQ de bicoïde, soit ici, on a même, ça c'était en fait une protéine contrôle, des domaines activateurs de la protéine GCN4 de levure. Donc ce facteur de transcription-là, il n'a rien de l'embryon de drosophile et de la drosophile puisque toutes ces séquences en fait sont issues de séquences de levure. Et on a pris les séquences donc, codant pour ces deux facteurs de transcription, on les a placées sous contrôle d'un promoteur maternel de façon à ce qu'ils soient exprimés pendant l'ovogenèse. Et on s'est arrangé pour que dans la région 3' du messager se trouve le bicoïde 3' UTR, qui est en fait la séquence qui permet l'ancrage de l'ARN de bicoïde au pôle antérieur. Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est que si on obtient un transgène qui porte cette construction, on va obtenir l'expression des messagers codants pour ces deux facteurs de transcription dans l'embryon grâce à l'ancrage aux séquences d'ancrage de bicoïde à l'antérieur, ces messagers seront ancrés à l'antérieur exactement comme bicoïde est ancré à l'antérieur. Et au moment de la ponte, parce que les séquences en fait nécessaires pour la traduction de la protéine sont aussi dans la séquence bicoïde 3' UTR, la synthèse de ces deux protéines pourra être induite. Et ce système va nous permettre de produire en fait des gradients de facteurs de transcription artificiels en fait, dont celui-ci, hein, le Gal4-3-GCN4, n'a absolument rien en commun avec la protéine bicoïde, si ce n'est son ancrage, enfin, l'ancrage de son ARN au pôle antérieur. Alors, une fois qu'on a obtenu donc, ces femelles qui produisent donc, pendant l'ovogénèse ces ARN et donc ces embryons qui produisent ces gradients de facteurs de transcription artificielle, on va s'intéresser à l'expression d'un gène cible qui, cette fois, va placer l'AXZ sous contrôle d'un promoteur minimal portant des sites de fixation pour Gal4, donc UAS. Et donc, on va regarder dans des mouches qui portent les deux transgènes, hein, le transgène qui permet l'expression du gradient et le transgène cible, et on va se poser la question de savoir comment l'AXZ est exprimé en fait dans ces embryons. Alors, ce qu'on observe, c'est présenté ici. Donc, à nouveau, dans des embryons précoces, on a un domaine d'expression de l'AXZ qui est à l'antérieur et qui porte une bordure qui n'est pas très nette, hein, qui est assez représentative finalement de ce qu'on a vu du gradient de bicoïde, hein, et sans doute des gradients de ces deux facteurs de transcription. Et si on regarde maintenant ce qui se passe dans des embryons un petit peu plus tardifs, on s'aperçoit que les domaines d'expression sont là aussi extrêmement bien définis avec une bordure extrêmement nette. Et la précision, en fait, la netteté de la bordure, vous voyez qu'elle est à peu près de l'ordre de ce qu'on avait aussi pour les gènes cibles de bicoïde. Donc ça nous a permis de montrer en fait que finalement des gradients artificiels de facteurs de transcription sont capables d'activer l'expression de leurs gènes cibles dans un domaine à bordure nette. Donc finalement, on n'a pas besoin de beaucoup de choses spécifiques à bicoïde, puisqu'un facteur de transcription exprimé dans cet embryon syncytial, ben, il est capable de produire ces domaines à bordure nette. Alors, ça, c'est un petit résumé en fait, de ce qu'on a pu conclure de ces expériences en fait, concernant la netteté de la bordure des gènes cibles de bicoïde. Elle nécessite donc uniquement la présence de sites de fixation pour bicoïde dans le promoteur. L'expérience avec les gradients artificiels nous montre qu'elle nécessite aussi uniquement finalement la capacité à activer la transcription. On n'a pas besoin d'une séquence spécifique à bicoïde pour obtenir ce phénomène-là. Et par ailleurs, bon, ça c'est le fruit des expériences avec les mutants dans lesquels on perd la bordure nette d'expression d'Hunchback. Le domaine C de bicoïde a quand même l'air d'être important pour ce phénomène. Alors, du coup, là se posent maintenant plein de questions en fait. Comment peut se former cette bordure nette? Alors, il y a finalement une hypothèse qui a été proposée il y a déjà pas mal de temps, qui est l'hypothèse que les généticiens aiment bien, qui était l'hypothèse de l'autorégulation. Hein, parce que la plupart des gènes cibles de bicoïde, en fait, sont des facteurs de transcription. Et donc, une hypothèse, c'était, bon, la bordure nette, elle se forme par un phénomène d'autorégulation, c'est-à-dire que le gène va s'exprimer et il va être capable d'agir sur sa propre expression, et ça permettra d'obtenir la bordure nette. Alors, nos expériences avec les LAXZ, hein, que ce soit le gène cible rapporteur pour bicoïde ou les gradients de GAL4, puisque LAXZ n'est pas un facteur de transcription, indiquent qu'on peut former une bordure nette sans invoquer de phénomène d'autorégulation. La deuxième hypothèse qui est possible, qu'on peut envisager, c'est qu'il y a éventuellement, et ça c'est une hypothèse qui est assez soutenue par les physiciens qui s'intéressent à des modèles donc pour essayer d'expliquer comment une bordure nette peut se former, et ils proposent souvent que en fait il y a un gradient de répresseur qui agisse dans l'autre sens, hein, donc qui soit à son point maximal au pôle postérieur, et l'idée ce serait qu'effectivement ce gradient de répresseur, ben, d'une manière ou d'une autre, empêche l'activité de notre protéine, et c'est ce qui permettrait de former cette bordure. Alors, concernant l'implication de ce répresseur, je ne veux pas complètement exclure cette hypothèse, parce que ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que effectivement, on aurait tendance à dire qu'il n'y a sûrement pas de répresseur, puisque les gradients de GAL4, finalement, qui n'ont rien à voir avec bicoïde, ben, ils sont capables de former une bordure nette. Simplement, on ne peut pas exclure quand même que ce répresseur puisse être un répresseur assez général, qui soit capable quand même d'agir sur les facteurs de transcription qu'on a utilisés. Donc aujourd'hui, on ne peut pas totalement exclure cette hypothèse-là. Il faut qu'on la garde en tête. Et un des moyens, en fait, de regarder, tester vraiment cette hypothèse, ce serait de regarder ce qui se passe dans des embryons dans lesquels on a détruit la polarité antéro-postérieure, par exemple en gardant nos gradients de GAL4 et en ayant un embryon qui soit totalement dépourvu de polarité, de regarder si effectivement on continue à avoir la formation de cette bordure nette. Alors, la troisième hypothèse, en fait, c'est une hypothèse qui est plus... que les biochimistes aiment bien, hein, et qui invoquerait des questions de coopérativité de fixation à l'ADN. Il est vrai qu'à chaque fois qu'on a essayé nos gènes rapporteurs, ou quand on regarde les gènes cibles de bicoïde, on a toujours plus d'un site de fixation pour bicoïde. Donc effectivement, cette hypothèse, on ne peut pas totalement l'exclure. Alors, quand je parle de coopérativité de fixation à l'ADN, je pense que d'un point de vue du concept, c'est à peu près la même chose de parler de synergie d'activation, où là, ce n'est pas une coopérativité avec l'ADN qu'il y aurait, mais ce serait plutôt une coopérativité avec la machinerie de transcription. Alors, en fait, ça a quand même été regardé un petit peu, en particulier pour ce qui concerne la coopérativité de fixation à l'ADN. Et vous allez voir dans les expériences que je vais vous montrer maintenant que cette bordure, en fait, elle est extrêmement nette. Hein, c'est vraiment à l'échelle du noyau. Et aujourd'hui, toutes les mesures biochimiques des coefficients de coopérativité ou des coefficients de Hills qui ont été mesurés avec des protéines, auraient vraiment du mal à expliquer ce phénomène de formation de bordure nette. Et alors, pour terminer, alors là, c'est encore une question, comment se forme la bordure nette ? C'est plutôt, en fait, deux aspects du développement de l'embryon de drosophile que je pense qu'il faut qu'on garde en tête quand on essaye de comprendre tout ça. Le premier, ça concerne la dynamique de la chromatine et de l'organisation nucléaire. Donc, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans les premières étapes du développement de l'embryon, quand les noyaux se divisent, les premières divisions, hein, jusqu'au cycle 9, s'effectuent en absence de toute transcription zygotique détectable, en tout cas, et de manière extrêmement rapidement. Et ce qu'on pense aujourd'hui, en fait, c'est que dans cet embryon très jeune, c'est vraiment la machinerie de réplication du génome qui est extrêmement active. Et à partir du cycle 9, commence à se déclencher la transcription zygotique. Et là, les cycles de division ralentissent. Et donc, il y a une dynamique de la chromatine qui s'établit avec l'établissement d'un certain nombre de domaines répresseurs, enfin de domaines euchromatiques ou hétérochromatiques. Et donc, c'est possible, effectivement, puisque la dynamique de la formation de la bordure intervient à peu près en même temps que cette dynamique de la chromatine, c'est possible éventuellement que ces deux phénomènes puissent être liés. Et l'autre phénomène qui est important et qu'il faut garder en mémoire, c'est qu'évidemment, à chaque fois, je vous ai dit, on observe vraiment une bordure nette au moment de la cellularisation. La cellularisation, c'est l'invagination des membranes nucléaires de la membrane cellulaire de part et d'autre de chacun des noyaux. Et donc, on ne peut pas complètement oublier ce processus de cellularisation. Et on pourrait être parfaitement imaginer que, finalement, les ARN produits dans un embryon avant cellularisation diffusent un petit peu et qu'au moment de la cellularisation, cette cellularisation fournisse une bordure physique en fait, qui empêche les ARN cytoplasmiques de diffuser. Et donc, du coup, pour essayer en fait, de regarder, d'analyser ces deux aspects-là, on s'est dit qu'il fallait peut-être essayer de mieux regarder l'expression des gènes cibles de bicoïdes, mais cette fois en changeant un petit peu notre façon de faire. Et donc, on a décidé de transformer l'hybridation in situ classique en hybridation in situ fluorescente, où là, cette fois, en fait, la seule différence, en fait, d'un point de vue technique, c'est qu'au lieu d'avoir une détection grâce à une enzyme, on utilise un anticorps fluorescent. Et l'intérêt, en fait, de la technique de fluorescence, c'est que ça permet d'analyser ce qui se passe à une échelle beaucoup plus précise et à l'échelle des noyaux. Donc ici, vous voyez une expérience donc, réalisée avec ces deux types de détection à peu près sur deux embryons de même stade. Et on voit bien, effectivement, l'expression fluorescente d'Hunchback dans l'embryon. Alors, si, voilà, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est dommage, enfin oui, vous le voyez. Alors, donc dans le domaine antérieur, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a effectivement du vert, mais on a aussi plein de petits points plus forts. Donc, on a voulu essayer de savoir, est-ce qu'on peut... Ah, voilà, super. Donc on a bien ce marquage vert et on a aussi beaucoup... plein de petits points plus forts. Donc, ce que Aude a voulu essayer de regarder, en fait, c'est qu'est-ce que c'était que ces points forts. Et donc, elle a réalisé un marquage avec une lectine du port nucléaire, WGA. Et ce qu'on observe, en fait, c'est ça. Donc, ici, vous avez un embryon donc, avec tous ces noyaux et le marquage, en fait, qu'on voit dans l'antérieur. Alors, si on zoome un petit peu, donc, par exemple, ici, au niveau de la bordure, on s'aperçoit, voilà ce qu'on observe. Donc, je vous ai laissé ici donc, ce qu'on voyait dans le vert. Hein, et ici, une image où on a à la fois le marquage vert et en plus les noyaux. Alors, ce dont on s'aperçoit, en fait, c'est que ces points, ils sont tous dans les noyaux. Et en général, on a deux points par noyau. Alors, je vais vous poser une question. À votre avis, qu'est-ce que c'est qu'on voit ? À quoi correspondent ces points ? On détecte l'ARN. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, Alors, notre interprétation de cette histoire-là, c'est qu'en fait, on a donc un gène qui est activé avec une polymérase qui est en train de transcrire des ARN. Et ce qu'on détecte en fluorescence, c'est les ARN. Donc, ce qu'on pense, en fait, c'est qu'on a deux points en général par noyau. Et ce qu'on pense, en fait, c'est que ça correspond à l'accumulation des transcrits en cours de synthèse au locus, en fait, hunchback. Alors, pendant un certain temps, ces transcrits, la raison pour laquelle on arrive à les détecter, c'est parce qu'ils sont concentrés, parce qu'il y a une transcription importante et que du coup, ils se trouvent transcrits à cet endroit-là. Alors, évidemment, pour démontrer ça, ce qu'il faudrait faire, alors on a essayé de le faire, malheureusement, on n'a pas encore réussi, c'est essayer de détecter la région hunchback avec une sonde ADN cette fois. Alors, le problème, c'est que là, on n'a qu'une seule copie du gène hunchback, donc il faut une sonde qui fasse au moins 10 ou 20 kb. Et il y a un deuxième souci, c'est qu'un ARN est finalement assez... la technique d'hybridation in situ avec des ARN est assez facile, entre guillemets, parce qu'il faut dénaturer les structures secondaires, mais si on arrive avec une sonde complémentaire, ça s'hybride parfaitement bien. Si on veut identifier le locus, il faut vraiment déshybrider la double hélice d'ADN, et là, cette fois, c'est beaucoup plus difficile. Donc, on n'a pas encore réussi à montrer ça. Alors, l'autre solution, ce serait, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de prendre un embryon qui porte une délétion, en fait, qui soit hétérozygote délétée du gène hunchback. Et l'objectif, c'est de se dire, là, on devrait n'avoir plus qu'un seul spot par noyau. Ce serait la démonstration que c'est ça. Une chose positive, en fait, par rapport à notre analyse, c'est que ce qu'on constate, si on regarde la bordure, très, très rapidement, en fait, ça s'éteint. Donc, pour moi, c'est la transcription, mais peut-être que... donc pour nous, on a un processus de formation de cette bordure qui a l'air d'être transcriptionnel. Alors aujourd'hui, évidemment, ce qu'on veut regarder, c'est quel est l'aspect de cette bordure donc en fiche aux différents stades de développement pour essayer de déterminer si la netteté de cette bordure correspond à un mécanisme transcriptionnel ou post-transcriptionnel. Peut-être que je me trompe là par rapport à cet aspect-là. Et évidemment, la deuxième question qui se pose, c'est peut-on aussi analyser les ARN cytoplasmiques, hein. Donc, si on revient sur cette image-là, ce qu'on voit, c'est que non seulement on a ces spots qui sont dans les noyaux, mais on a aussi un marquage vert, en fait, qui est plus diffus, qui est sans doute aussi en petits points, qui est, lui, par contre, beaucoup plus... répartis dans le cytoplasme. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que à partir de quand on voit ces ARN cytoplasmiques et est-ce que une partie de la diffusion en fait de la bordure qu'on voit dans un embryon précoce peut pas être liée à la diffusion des cytoplasmiques et pas au processus de transcription. Alors ça, bon, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe dans un embryon plus jeune, hein. Donc là, on a moins de noyaux, hein, donc cet embryon est plus jeune. On voit déjà les spots apparaître ici. Et là, à nouveau, vous avez ces marquages qui sont, eux aussi, à chaque fois localisés dans les noyaux et en général au nombre de deux. Avec, à nouveau, finalement, une bordure qui s'arrête assez nettement. Alors, évidemment, la question qui nous intéresse aussi, puisque je vous ai parlé de ce mutant, on a un mutant dans lequel on a perdu cette bordure nette d'hunchback. Et donc, la question, c'est quel est l'aspect de la bordure dans ce mutant ? Alors, malheureusement, aujourd'hui, avec toutes ces analyses de fiches, ce qu'on voudrait faire, c'est une analyse quantitative, hein, être capable de mesurer chaque spot, quelle est son intensité, et pouvoir définir jusqu'où la bordure va dans l'embryon. Et aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas encore ces mesures quantitatives. Par contre, on a regardé donc, ce qui se passait dans ces embryons donc, qui avaient perdu cette bordure nette. Et alors là, ce qu'on voit... donc, je ne sais pas comment ça peut être interprété, mais en tout cas, ce qu'on voit, donc on continue à voir au niveau de la bordure des spots intenses, mais ce qui est intéressant, c'est que en général, enfin, il arrive d'avoir, alors je ne sais pas, par exemple, celui-ci, qui se trouve ici, vous vous rendez compte qu'il y a un noyau avec un spot et il n'y a plus du tout de spot, enfin de noyau. Les noyaux autour, en fait, n'expriment pas. Ce qui est aussi surprenant, c'est que dans tous ces noyaux, finalement, on ne voit plus qu'un seul locus. Donc, c'est un petit peu comme si... alors, moi, j'interprète ça comme le site de transcription. C'est un petit peu comme si le deuxième locus, au moment où on a fixé l'embryon, bah, il n'est pas en train de transcrire et il n'est pas avec ce processus de transcription. Et on arrive à avoir certains noyaux qui transcrivent de temps en temps. Alors, ça rejoint, en fait, une réflexion qui est réalisée en ce moment sur le processus d'activation de la transcription, et en particulier donc un modèle qui a été proposé par Ido Goldwin en 2006 suite à un travail réalisé dans le laboratoire de Rob Singer, qui étudiait en fait, qui essayait de visualiser le processus de transcription sur cellules vivantes. Et ce que le travail de Rob Singer avait montré, c'est que finalement, en fait, en général, on a une vision de processus de transcription qui suit une loi de Poisson, avec ici, vous avez, chaque barre va représenter la synthèse d'un transcrit. Et donc, ça, c'est la polymérase au niveau d'un locus, avec une loi de Poisson où on a régulièrement des transcrits qui sont produits. Et les expériences de Rob Singer proposaient qu'en fait, le processus de transcription, il ne suit pas une loi de Poisson, mais il suit un système en deux états, avec des moments, en fait, où... Une fois qu'une polymérase a démarré la transcription, à ce moment-là, il y en a plusieurs qui peuvent démarrer et ça fait des bursts de transcription. Et ensuite, le gène se trouve dans un état où il n'est plus du tout transcrit. Et ça va repartir avec à nouveau une polymérase qui va redémarrer plusieurs sites de transcription. Alors, ce qui pourrait se passer en fait dans notre système, c'est que dans la situation sauvage qu'on a ici, on a des bursts de transcription dans le cas d'une protéine bicoïde sauvage avec un promoteur d'Hunchback qui fonctionne très bien. On a des bursts de transcription qui sont extrêmement fréquents et finalement, le plus souvent, on voit les deux locus en train d'être transcrits. Et dans le mutant Delta QAC, donc qui a perdu la netteté de cette bordure, ce qu'on voit ici, c'est finalement, là, on a réussi à fixer à un moment donné... le burst de transcription au niveau de ce locus-là, mais par contre, dans les noyaux qui se trouvent tout autour, on n'en a plus. Alors, la raison pour laquelle ce serait éventuellement moins bon, c'est qu'évidemment, le mutant en question, c'est un mutant qui touche les domaines activateurs de la protéine bicoïde, et donc on pourrait avoir une protéine qui serait beaucoup moins efficace pour démarrer ces bursts de transcription. Donc ça, c'est un petit peu... évidemment, pour aller plus loin dans cette hypothèse, là, on est vraiment... coincé entre guillemets avec la technique, puisqu'on est obligé de fixer des embryons et donc de les arrêter à un moment donné de leur développement. Donc évidemment, la voie, enfin la direction qu'on attaque en ce moment, c'est essayer de suivre ce processus de transcription en temps réel en utilisant donc la stratégie MS2 qui a déjà été utilisée donc pour suivre des ARN messagers dans les cellules vivantes. L'idée, ce serait d'avoir un gène rapporteur, donc cette fois à nouveau avec des sites bicoïdes, qui permet d'exprimer donc un messager permettant d'exprimer bon, une protéine fluorescente pour vérifier qu'il est capable de produire une protéine. Et ici, il porterait en 3' des séquences MS2, donc qui est un phage bactérien, qui porte une tige bouclée capable d'être reconnue de manière extrêmement efficace par une protéine qui s'appelle MCP. Donc, on peut avoir des embryons qui produisent de manière homogène en fait, cette protéine MCP fusionnée à la GFP. Et l'idée qu'on a, c'est si effectivement on a des bursts de transcription et on est capable d'accumuler les transcrits au site de synthèse, on pourra éventuellement les détecter grâce à l'interaction de cette protéine MCP-GFP avec ces ARN en train d'être transcrits au site de transcription. Et ce système devrait nous permettre de déterminer effectivement s'il y a des bursts de transcription et si dans le mutant Delta QC, effectivement, le système de démarrage de la transcription en pulse est ralenti pour expliquer en fait notre observation.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.